Interview.
1/2 et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Monsieur David Christoffel. Bonjour.
Bonjour.
David Christoffel, vous êtes sur 1/2 en étant producteur de l'émission Métaclassique, une émission qui traite de musique classique, mais au-delà même. D'où ce titre d'ailleurs, Métaclassique, quel sens vous lui donnez à ce titre ?
C'est vraiment de prendre la musique comme une espèce de point de départ en se disant qu'elle peut nous emmener ailleurs, nous faire voyager, y compris dans d'autres univers musicaux plus récents, plus expérimentaux, et puis aussi de donner la parole non seulement aux musicologues, aux musiciennes et musiciens, bien entendu, mais aussi à des historiens, et puis encore à des gens de la philosophie, des lettres, enfin de nourrir en fait notre rapport à cette musique, qu'on la connaisse bien ou qu'on la connaisse moins bien, avec des approches les plus plurielles possibles, disons.
Vous êtes avec nous au téléphone pour nous parler donc Le Syndrome Salieri, qui sera édité le 9 avril aux éditions Les Premières Loges. Alors, ce livre dédié à ce compositeur vénitien, je crois, et qui était un contemporain de Mozart. Et vous abordez justement cet aspect de cette vie de ce compositeur que l'on méconnaît un peu aujourd'hui.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il est très très peu joué. Il y a fort peu d'occasions d'entendre sa musique, ce qui est un paradoxe immense parce que c'est un compositeur qui a eu un succès vraiment de premier plan au XVIIIe siècle, exactement à l'époque de Mozart en effet. Il se trouve qu'il est vénitien, mais qu'il a très vite exercé à Vienne et qu'il a donc en effet rencontré Mozart dans les années 1780, mais ses plus grands succès ont été à Paris, puisqu'il avait les faveurs de Marie-Antoinette qui lui a commandé des opéras qui ont eu un succès absolument, enfin, le plus gros succès de l'opéra de Paris dans ces années-là, c'est à Salieri que l'on le doit. Et en effet, son image a complètement été déformée quelques années avant sa mort et puis largement après. Non seulement il a été, comme je disais, beaucoup moins joué que Mozart, il y a eu une espèce de Mozart mania qui s'est réveillée au début du 19e siècle, qui a commencé à lui faire de l'ombre, sans parler du 20e siècle, où là, en effet, au milieu du 20e siècle, au moment du bicentenaire de la naissance de Mozart, il y a eu vraiment un culte porté sur ce compositeur qui a fait finalement que la symétrie de réputation entre les deux, le fait qu'on en ait un qui soit le génie par excellence, on a même dit le dieu de la musique, et puis l'autre qui soit complètement oublié, a fini par complètement déformer son image, à en faire une espèce d'étalon du musicien raté, on pourrait dire. Et évidemment que la meilleure illustration de ça, c'est le film d'il y a 40 ans de Milos Forman, Amadeus, et qui va quand même donner à Salieri, ce film, une consistance importante, puisque ça devient le narrateur, le fil rouge, mais il apparaît toujours en contre-jour de celui qui est construit comme le vrai génie. Ce qui est une distorsion historique énorme, parce que, encore une fois, Salieri était largement aussi plébiscité que Mozart de son vivant, et on lui doit des opéras qui commencent à être enregistrés, notamment par Christophe Rousset. On en parle d'ailleurs dans l'émission de Métaclassique de la semaine de la parution du livre du 9 avril, et qui est une musique tout à fait intéressante et dont il est forcément très intéressant de l'écouter aujourd'hui.
Sur quoi s'est basé Miloš Forman sur ce film Amadeus pour mettre en lumière cette relation entre ces deux compositeurs?
Alors, en fait, il est parti d'une espèce. Alors, il prétend ne pas avoir tenu compte d'une nouvelle de Pouchkine qui est très très antérieure, mais qui en fait semble quand même distribuer cette antagonie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années de la vie de Salieri, il y a eu une rumeur qui a couru, comme quoi il aurait empoisonné Mozart. Et puis cette rumeur, elle a été amplifiée par le fait que pour de vrai, Salieri, 2 ans avant de mourir. Alors, il est mort bien après Mozart, hein, parce que même s'il n'avait jamais que 6 ans de plus, Mozart est mort de façon très précoce à l'âge de 35 ans, donc en 1791. Et Salieri, qui était né en 1750, lui a vécu jusqu'à 75 ans. Donc, c'est comme ça que on en arrive cette année au bicentenaire de sa mort, puisqu'il est mort en mai 1825. Et quelques mois avant de mourir, donc en 1823, et d'ailleurs, c'est restitué au tout tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous l'avez vu, de la toute première scène du film de Milos Forman Amadeus, qui elle est historiquement à peu près vraie, c'est que Salieri tente de s'égorger. Alors on ne sait pas à quel point il l'a vraiment tenté, mais en tout cas il a tenté de s'égorger en s'accusant de la mort de Mozart. Mais c'est pas parce qu'il s'en est accusé qu'il l'a véritablement tué, d'autant plus qu'il y a des témoignages qui disent qu'il aurait dit j'ai empoisonné la vie de Mozart, si bien que ça aurait été un empoisonnement, mais au sens figuré du terme. N'empêche que de son vivant, donc en 1823-24, il y a eu des pièces de théâtre qui l'ont mise en scène en train d'empoisonner Mozart. Donc cette réputation, elle a couru, même s'il est très très peu probable qu'il l'ait véritablement empoisonné. Mais sur la base de ça, Pouchkine, en 1830, donc après la mort de Salieri, a fait une pièce qui s'appelle Mozart et Salieri, qui met les deux compositeurs en antagonisme avec l'idée qu'il y a un criminel d'une part et un génie d'autre part, et puis une question philosophique qui court dans cette toute petite pièce qui doit durer peut-être 15 minutes, où la question est de savoir peut-on être génie et criminel à la fois. Sous-entendu évidemment que pas, puisque Salieri est criminel sans être génie, tandis que Mozart serait donc génie sans être criminel. Donc ça, c'est une espèce de construction théâtrale qui est d'ailleurs très très, très efficace, on va dire, et qui a été repris par une pièce écrite par Rimsky-Korsakov à la fin du 19e siècle, et surtout reprise par Peter Schaeffer dans les années 70 pour une pièce de théâtre qui s'appelle Amadeus, et qui va inspirer, et qui participe d'ailleurs à la construction du film de Milos Forman. Donc en fait, c'est cette mise en opposition tout à fait allégorique pour les besoins du théâtre qui a fini par créer, faire des deux personnages effectivement un peu comme des espèces d'archétypes et parfois même l'image qu'on pourrait avoir en soi d'un Mozart qu'on aurait assassiné, le génie qui est en nous, pour laisser gagner le médiocre, le celui qui est besogneux, qui vise la gloire mais ne l'atteint jamais, qui est bloqué par une espèce de plafond de verre et qui serait Salieri. Donc c'est pour ça que dans le livre, je fais des deux compositeurs des espèces de noms communs, de tendances qui seraient en nous aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette expression parfois d'assassiner le Mozart qui est en soi, ou au contraire, d'essayer de le faire gagner.
Antonio Salieri, pour vous, est-ce que c'était une tragédie?
Vous voulez dire le vrai Salieri?
Son existence, sa perception, bah, qu'on en tire.
Oui, en quelque. Enfin, disons que il a jusqu'à l'âge de 40 ans, il a eu une carrière tout à fait réussie et notamment soutenue par l'empereur Joseph II. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de l'empereur en 1790, et ben et d'ailleurs Mozart aussi, il s'est retrouvé quasi sans ressources et un peu à la peine. Et effectivement, à partir de ses 40 ans, il s'est mis à beaucoup moins composer. Il a eu quelques commandes. Sur l'ensemble de sa vie, il a quand même composé 40 opéras. Et puis surtout, il avait beaucoup moins de succès. Mais il a quand même été en contact avec Beethoven. Il a participé à la création d'une symphonie de Beethoven. Et puis, il a aussi été l'un des profs, et pas le moindre, de Schubert. Donc, il continuait à avoir une activité pédagogique assez soutenue. Ce qui est très probable, c'est que les dernières années de sa vie devaient être assez malheureuses, et que s'il y a eu de sa part une jalousie envers Mozart, elle est sans doute intervenue plutôt à ce moment-là, parce qu'il voyait que Mozart était continué à être joué alors qu'il n'était plus là, tandis que ses propres opéras à lui n'étaient plus joués et qu'on commençait à l'oublier vraiment. Donc sans doute est-ce qu'il devait avoir des jours un peu moins heureux que les autres. De là à parler d'une tragédie, en fait, je ne sais pas. C'est vraiment l'histoire d'un musicien à grand succès qui, passé un certain âge, avait moins de succès. Et ça, c'est quelque chose qui est assez courant pour le coup, hein, dans les parcours de compositeurs. Beaucoup moins courants, finalement, sont les parcours d'immenses réussites comme celle de Mozart.
Dans le livre, beaucoup de personnalités sont mentionnées. On peut lire évidemment Mozart, Beaumarchais, Gluck. Comment se sont documentés vos écrits? Est-ce qu'il y a eu un accès à des archives, des mémoires qui permettent de situer encore plus cette personnalité qui était Antonio Salieri?
Oui, alors j'ai pas fait un travail strictement d'historien qui aurait consisté effectivement à aller chercher les manuscrits de toutes ses œuvres, à lire toutes ses lettres et ainsi de suite. Comme je suis parti de l'idée de ce syndrome, c'est-à-dire l'idée que peut-être est-ce qu'il n'est pas le seul compositeur à avoir souffert de l'hyper-focalisation sur Mozart. J'essaye aussi de montrer qu'il y a beaucoup de compositeurs de cette époque qui souffrent pas mal de l'ombre de Mozart, et au point que je passe en revue tous ceux qu'on appelle tantôt le Mozart tchèque pour un compositeur fabuleux qui s'appelle Myslivetchek, qu'on a beaucoup oublié aussi, ou bien le Mozart de Valence qui s'appelle Martini Soler, enfin toutes ces autres très grands compositeurs de cette époque qui sont en quelque sorte saliérisés par l'histoire. Donc c'est l'idée de dire que Salieri n'est pas le seul compositeur. Donc je me suis plutôt documenté de cette façon-là, et j'ai aussi beaucoup travaillé en passant beaucoup de temps à la Bibliothèque nationale à Paris, sur les représentations fictionnelles qu'on donne des deux compositeurs pour vérifier que cette espèce d'asymétrie, certes, elle est présente dans le film de Milos Forman, mais elle est déjà préparée par la musicologie. Et tout mon angle a été de montrer que cette mise en opposition entre le lumineux et l'ombrageux, elle n'est pas qu'une affaire simplement de fiction, même si elle est nourrie par pas mal d'écrits écrit romanesque et théâtraux, mais elle est aussi très relayée, voire construite aussi par la littérature musicologique, qui pourtant se veut rigoureuse historiquement. Mais même si elle est rigoureuse historiquement, elle est quand même aussi pétrie d'un certain nombre de préjugés sur les figures qui sont entamées. Donc pour ça, j'ai utilisé des sources qui ne sont pas que historiques, scientifiques. Il y a aussi des sources fictionnelles, cinématographiques. Il y a même un manga dont je parle abondamment. Et donc je travaille vraiment sur les représentations du compositeur, bien autant que sur sa véritable histoire.
Dans le film, il y a cette scène chez cet empereur, où Salieri propose une écoute et de faire interpréter une composition, et que Mozart ensuite arrive et restitue cette composition à sa manière, et au-delà même d'une certaine magie, en quelque sorte. Ma question était de savoir, est-ce qu'il y a eu des œuvres qui ont été reprises l'un par l'autre et qui sont éditées aujourd'hui dans la photographie?
Alors, il y a des jeux d'emprunt, ça c'est sûr, parce que c'est aussi dans la manière de composer de Mozart que effectivement d'emprunter à tout ce qu'il entend, mais aussi c'est aussi un mode de fonctionnement pour faire des clins d'œil permanents au public d'opéra de cette époque-là, qui fait que c'était très courant en fait, et pas seulement dans le cas de Mozart, de faire référence aux autres compositeurs. C'est par exemple dans Don Giovanni de Mozart, on a aussi des clins d'œil à Martini Soler, pas seulement, enfin, on n'a pas de clin d'œil à Salieri, mais on en trouve par ailleurs. Donc ça, oui, Mozart, mais aussi ses contemporains étaient tout à fait coutumiers du fait de se citer les uns les autres. Ça va, faut pas le prendre comme quelque chose qui serait soit une moquerie, soit un hommage. C'est vraiment juste parce que on se fait des références à l'actualité lyrique d'un ouvrage à l'autre, puisque c'est une époque où on jouait très peu de répertoire ancien, on jouait que des nouveautés. Une manière de faire scène commune était comme ça, de faire des jeux de renvoi. En revanche, cette scène qui est effectivement très marquante, où on voit Mozart qui humilie presque Salieri en reprenant un petit menuet et puis en faisant une dépense de virtuosité dont on devine donc qu'il soupçonne que Salieri n'est pas capable, ça c'est une scène qui a très probablement pas du tout existé historiquement, pour autant qu'elle n'est pas elle est pas impossible, au sens où c'était quand même tout à fait l'esprit de l'empereur que de mettre en duel les compositeurs et les pianistes entre eux, et qui avait organisé notamment un duel entre Mozart et non pas Salieri, mais avec Clément Monti, qui était un pianiste très virtuose et un compositeur intéressant de cette époque. Et donc, c'était en effet tout à fait dans les mœurs de la cour de Vienne que de faire ce genre d'événement. Et il y avait eu une espèce de duel, en revanche, Mozart-Salieri, où Joseph II leur avait chacun commandé un petit opéra pour une seule soirée. Avec l'idée qu'il fallait que Mozart représente l'opéra allemand et puis Salieri l'opéra italien, donc il y avait une mise en compétition comme ça des deux manières de faire opéra. Mais là, pour le coup, tout avait été aménagé pour que ce soit plutôt Salieri qui gagne, et Mozart s'était quand même prêté au jeu, mais dans un esprit plutôt de concorde et de fête. Donc toute cette histoire de rivalité a beaucoup été montée en épingle après, et notamment par le film, alors qu'ils étaient plutôt en admiration mutuelle que véritablement en jalousie. Et du reste, une des dernières fois où ils ont dû se voir, à peu près 2 mois avant la mort de Mozart, c'était une représentation de la flûte enchantée et de Mozart, et Mozart raconte dans sa correspondance que Salieri l'a complètement acclamé, et donc quand on le voit dans le film de Milos Forman en train de pester contre la magnificence des œuvres de Mozart, au contraire, sans doute est-ce qu'il était absolument réjoui de voir un opéra aussi réussi, alors que quelques mois plus tôt, leur soutien mutuel, qui était Joseph II, était mort.
J'avais ce ressentiment plutôt d'un compositeur qui se sentait en deçà de ce qu'était Mozart au niveau de la composition. C'était peut-être son drame. Moi, j'ai perçu ce film comme ça. Je posais cette question tout à l'heure sur cette confrontation musicale, à savoir, est-ce qu'on pourrait illustrer le propos avec peut-être une composition qui soit commune ou qui ait une certaine relation entre ces deux compositeurs.
Alors, il y a une cantate qu'ils ont co-composée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été complètement enregistrée. En revanche, là où il y a peut-être une espèce d'union, ce serait oui, là où peut-être dans l'œuvre de Salieri, on trouve quelques manières très mozartiennes. Je pense par exemple à son concerto pour piano qui. Est quand même d'une facture très de l'époque et qui peut en effet faire penser à la manière d'écrire de la musique de Mozart. Ça pourrait être une bonne illustration en effet de ce qu'il y a quand même une communauté de style, de façon de faire. Par contre, est-ce qu'il considérait que Mozart était tant que ça supérieur musicalement à lui au point d'en souffrir? C'est quelque chose dont je suis pas intégralement sûr, qu'il est très très difficile de documenter parce que on n'a pas
Moi,
beaucoup de
je parlais
preuves
de la
suffisantes.
perception que j'éprouvais
Bien sûr, mais
dans
ça,
la vision
c'est
du
tout à
film.
fait. Le film, en effet, renforce une espèce d'aigreur, mais de même que le film renforce leur différence d'âge, qui n'était jamais que de 6 ans, ils étaient vraiment de la même génération, alors que le film, en nous montrant un Salieri bien après, en 1823, au moment de l'égorgement, et en nous montrant un peu terne et puis homme d'appareil, très, très habile à la cour et tout ça, on le perçoit comme beaucoup plus vieux que Mozart, qui est renforcé dans son côté juvénile parce qu'on insiste sur le côté prodige de Mozart. Ça, c'est vraiment une construction plutôt fictive et qui est assez déformée sans doute par rapport à l'histoire parce que Salieri était quelqu'un, enfin, d'après les témoignages, de très joyeux, qui adorait manger des sucreries, enfin, qui était beaucoup plus joyeux dans les témoignages historiques qu'on en a que il n'est présenté dans le film. Et sans doute devait-il aussi se réjouir des succès de Mozart plutôt que de pester et d'être jaloux. Et donc là, toute la construction où il s'adresse à Dieu en essayant de passer un pacte pour que il lui octroie du génie, puis finalement le génie, Dieu l'investisse sur quelqu'un qui est Mozart, qui est par ailleurs dans la scatophilie et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui est une construction a posteriori. En revanche, qu'il y avait des accès scatophiles chez Mozart, ça s'est avéré. Et du reste, quand Peter Schaeffer, qui a donc inspiré Amadeus, a monté la pièce de théâtre à Londres dans les années 70, Margaret Thatcher s'était choquée de voir qu'on représentait Mozart sous les traits de quelqu'un de potentiellement vulgaire qui pouvait faire des blagues pétomanes et ainsi de suite. Et sur ce, Peter Schaeffer avait apporté la preuve par des lettres de Mozart à Margaret Thatcher. Margaret Thatcher avait dit, mais puisque je vous dis que c'est pas vrai, sauf que la vérité historique, pour le coup, là, cette fois, était du côté de Peter Schaeffer.
Concerto pour piano, donc c'est une proposition à écouter des œuvres d'Antonio Salieri. Est-ce qu'il y aurait un morceau en particulier que je pourrais mettre pour finir
Ah oui,
cette émission?
le mouvement lent, je vous conseille le mouvement lent, oui, qui est vraiment très réussi, et peut-être même qu'il y a un blind test, on pourrait le faire passer pour du Mozart.
Quel était le courant de pensée de Antonio Salieri? Est-ce qu'il était il était auprès des grands de la cour? Est-ce qu'il y a une notion est-ce qu'il était porteur d'un message dans ses compositions?
Ah non, alors vraiment, c'était un très bon artisan, on pourrait plutôt dire. C'est-à-dire que quand il collabore avec Beaumarchais, que Beaumarchais lui écrit, enfin, Beaumarchais veut faire un opéra, en fait, donc en 1787. Il a déjà pas mal de succès à la scène, mais il n'a jamais écrit pour l'opéra. Et il va véritablement réquisitionner Salieri, qui vient d'avoir un grand succès avec un ouvrage qui s'appelle Les Danaïdes. Et pour Beaumarchais, c'est très clair que c'est le dramaturge qui a la mainmise sur l'intrigue et que le compositeur n'est là que pour embellir vraiment son ouvrage. Donc c'est vrai que, encore une fois, si on fait la comparaison avec Mozart, on le voit comme allant chercher le mariage de Figaro du même Beaumarchais pour en faire un opéra et revendiquer en même temps les idées de la Révolution française et ainsi de suite. Et alors, Salieri, dont j'arrive pas à être complètement sûr qu'il était aussi franc-maçon et proche des idées révolutionnaires, était sans doute un peu plus conservateur, mais sans être, du moins j'en ai le sentiment, véritablement un idéologue. Je crois que c'était vraiment un musicien qui aimait produire de la musique et puis qui a trouvé un certain confort encore dans les cours européennes de Joseph II et de sa sœur Marie-Antoinette pour en effet faire son ouvrage. Mais il n'était pas plus vindicatif que ça, ni des idées révolutionnaires, c'est sûr, mais non plus pas plus forcément conservateur que ça. En tout cas, c'était pas quelqu'un que je sens très porté sur la philosophie. Il était plutôt en contact avec ses dramaturges, les librettistes, et d'ailleurs, il avait les mêmes que Mozart, notamment Da Ponte. Et voilà, mais lui n'avait pas de message poétique véritablement si ancré que ça.
De nos jours, qu'en est-il de ce compositeur Antonio Salieri ? Est-ce que des musiciens se sont penchés ou se penchent sur son travail, sur son œuvre ? Est-ce qu'il y a des trésors encore peut-être méconnus à redécouvrir ?
Ah oui, alors il y en a très peu, mais il y en a et qui sont de premier plan. Alors le directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles, Benoît Radvitsky, que j'ai interrogé pour Métaclassique, et ce Métaclassique est largement cité dans l'ouvrage, lui justement a permis de remonter l'opéra Les Danaïdes, qui a donc été enregistré et qui fait qu'on a un enregistrement tout à fait de qualité de cet opéra, dirigé par Christophe Rousset, et ce chef, Christophe Rousset, que j'ai aussi interrogé pour l'occasion du bicentenaire. Donc le 7 mai prochain, publie à la fin de ce mois d'avril un cinquième disque des opéras de Salieri, et tous les disques de Christophe Rousset, ces différents opéras valent vraiment le détour. Moi, j'en aurais peut-être quelques-uns de préférence. J'aime beaucoup l'opéra Tarare, donc qui est en fait un grand succès, mais Armida est aussi très réussi. Et puis là, pour 2025, il fait sortir Kublai, et il y a de très très beaux extraits dans cet arrangement. Et d'ailleurs, on entend quelques extraits de Kublai aussi dans le Métaclassique que j'ai intitulé « Jalousé » pour le clin d'œil, même si de fait, il n'est pas beaucoup de questions de jalousie du coup, puisqu'il n'y en a pas véritablement eu entre les deux compositeurs.
On peut aussi retrouver la plupart de vos émissions sur votre site officiel metaclassique.com. Cet aspect intéressant de vos émissions sont titrés avec un verbe pour vous. Quel sens vous donnez à ces titres de vos émissions ?
Alors c'était vraiment quand j'ai monté l'émission l'idée de faire un pas de côté devant ces démarches qui consistent à toujours entrer dans la musique par des noms propres, et je trouve que passer par des personnes, des monographies présentent le défaut d'être un peu dans le cul de la personnalité et tout ça, et je voulais plutôt repartir effectivement des problématiques, des questions que pose la musique, et puis surtout de revendiquer la musique comme quelque chose de très actif, c'est-à-dire que avant tout, c'est quelque chose qu'on fait, la musique, y compris quand on l'écoute. Et donc, de passer par des verbes, et essentiellement des verbes d'action, me semblait une bonne manière non seulement de mettre les acteurs au service d'une réflexion, et les gens que j'interviewe véritablement en action autour d'un verbe, plutôt que dans une posture promotionnelle ou bien dans la connexion avec une seule figure de l'histoire de la musique. Et je trouve que d'ailleurs, ça fonctionne assez, au sens où les invités, je les invite souvent par deux, par trois, quand ils dialoguent autour plutôt d'un verbe que d'une figure, en effet, arrivent à s'échanger des choses sur la musique qui sont plus en prise avec le fait qu'en effet, la musique, ça se fait, quoi.
Ce syndrome, qu'est-ce que vous vouliez signifier par ce terme de syndrome ?
L'idée, comme je l'ai esquissé un petit peu tout à l'heure, qu'en effet ces figures comme Mozart et puis donc Salieri peuvent en effet devenir parfois des horizons de lecture de certains de nos parcours, puisque j'ai trouvé dans la vie quotidienne des mentions du mot Salieri qui devenait presque une insulte, où on dit « ah bah ça c'est un Salieri » et au lieu de s'enfermer dans l'idée que la figure de Salieri et même le saliérisme serait forcément quelque chose de l'ordre de la médiocrité, je me suis dit peut-être que si on le pense comme un syndrome, on pourrait en faire un levier pour penser c'est quoi ce Salieri qui serait en nous, qu'est-ce que serait qu'un Salieri? Est-ce que quand on rencontre dans la vie des Salieri, eh bien, on aurait peut-être mieux à faire que de les mépriser et de voir peut-être essayer de, je sais pas, d'interroger leur prétendue jalousie pour voir quel désir un peu plus positif elle recouvre, et puis plutôt que d'être en suspicion par rapport à ceux qui atteignent dans leur vie des plafonds de verre, se dire que non seulement Salieri était pas un si mauvais compositeur, loin s'en faut, et d'autre part, bah, si on est Salieri à un moment de sa vie, peut-être qu'on peut devenir Mozart à un autre moment de sa vie, et que ces oppositions méritent d'être dépassées.
Vous n'y voyez pas de représentation contemporaine, hein, de ce syndrome ?
Le fait est bah, que quand même, enfin, s'il n'y a pas, il y a bien des compositrices, beaucoup des compositeurs aujourd'hui qui sont, disons, invisibilisés ou qui sont un petit peu marginalisés dans la façon dont on les reçoit. C'est-à-dire que au-delà du jeu d'opposition, disons, allégorique qu'on pouvait trouver dans le film Amadeus de Milos Forman, il y a quand même dans l'opposition entre Mozart et Salieri peut-être quelque chose d'assez structurant quant à la façon que certains et beaucoup de médias peuvent avoir de présenter des artistes comme artistes de premier plan et d'autres comme des artistes de second plan, donc pour ne pas dire des Salieri. Et moi, effectivement, le livre, il s'inscrit en faux contre l'idée qui finalement s'est assez généralisée au cours de la crise Covid, qu'il pourrait y avoir des compositeurs inessentiels, là où il faudrait donc se concentrer sur les compositeurs essentiels. Et mine de rien, à chaque fois qu'on fait un top 50, un hit parade, ou qu'on remet des victoires de la musique ou des choses comme ça, et on est en train de nous dire qu'il y a des compositeurs ou des artistes plus importants que d'autres. Et moi, c'est une idée que je supporte mal parce que je pense qu'il n'y a pas véritablement d'expression artistique qui mérite d'être jugée moins essentielle qu'une autre. Je pense que c'est toujours un effet de star system que de vouloir hiérarchiser les artistes entre eux. Donc, en effet, c'est la fin de l'ouvrage que de mettre en soupçon cette opposition entre les essentiels et les inessentiels qui vient expliquer pourquoi je me suis finalement peut-être un peu moins intéressé à Salieri lui-même qu'à cette idée que son nom puisse être celui d'un syndrome.
Eh bien, David Christoffel, merci pour ces précisions. Et cette sortie d'ouvrage aura lieu à partir du 9 avril.
Merci beaucoup à vous.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
À bientôt.
Au revoir.